Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce Radio Okaï en direct du Labo Chantier Variété de Juin au Théâtre de Poche, au milieu du bois de la Cambre, comme on peut l'entendre aux petits oiseaux derrière nous et à la fraîcheur relative qu'il y a en ce jour de canicule. Donc on est ici autour de cette table avec Oumaïma et Romuald hein, aux manettes pour une émission sur ce Labo Chantier qui a été entamé hier avec des spectacles, avec des débats, avec des expositions. Et on va commencer comme ça, clac, avec Rachel. Bonjour Rachel.
Bonjour.
Oumaïma, on a vu hier un des spectacles que Rachel, avec sa compagnie Les Guêpes Rouges, propose. Un des spectacles, parce qu'il y a deux spectacles qui ont un lien entre les deux. Voilà, on va discuter avec Rachel de ces propositions participatives.
Bonjour Rachel, est-ce que tu peux commencer par te présenter ?
Ouais, je m'appelle Rachel Dufour, je viens de Clermont-Ferrand en France. Et attends, je me présente, c'est un peu vertigineux comme question en même temps. Je sais pas, j'adore le chocolat, la course à pied et les arts.
Est-ce que vous pouvez nous parler du projet auquel on a assisté hier ?
Oui, hier vous avez assisté à un spectacle qui s'appelle « On inventera le titre demain ». Je mets « spectacle » entre guillemets parce que nous souvent on ne sait plus très bien comment qualifier ça. On dit que c'est des expériences collectives. « On inventera le titre demain », c'est une expérience collective dans laquelle nous sommes deux comédiennes et on invite 30 enfants qui ont entre 8 et 12 ans à vivre une expérience avec nous sur le plateau. Ils sont à la fois les spectateurs et les acteurs de la proposition, sans être instrumentalisés, sans qu'on leur demande de jouer des rôles. Ils sont bien eux-mêmes et nous travaillons sur l'avenir ensemble pendant 1h15. On fait une grande expérience collective sur l'avenir qui va aller se nourrir à une histoire, qui va venir nous donner des forces ou nous interroger dans nos certitudes ou nos conceptions de l'avenir. Et puis régulièrement, on va revenir autour d'une grande table jaune fluo pour continuer à mener l'expérience ensemble.
Comment vous est venue l'idée de faire le projet ?
Alors, en 2016, en France, on travaillait dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires. Et quand on est arrivé, on a dit, on va faire un spectacle, mais on ne sait pas du tout ce que ça va être. On ne sait pas où on va le faire et on ne sait pas avec qui on va le faire. Et donc, on est parti à la rencontre des habitants avec toutes ces questions et en disant, est-ce que vous pourriez nous aider à répondre à ces questions ? Et tous les habitants, au début, nous disaient, nous, ça compte pas, mais faites avec les enfants. Faites pour les enfants. Nous, ça compte pas. Donc très vite, on s'est dit, on va être décevant si on ne fait pas pour les enfants et on ne va pas pouvoir gagner la confiance des adultes. Et les enfants, dans le quartier dans lequel on était, nous en tout cas, c'était un pouvoir collectif en extérieur énorme. Ils étaient très nombreux, très disponibles et avec un désir toujours de faire ensemble. On proposait un truc et il y avait 50 gamins qui étaient là. On était débordés par leur enthousiasme et notre truc était minuscule par rapport à leur enthousiasme et leur attente. Donc très vite, je me suis dit, ok, ce qu'on va faire avec ces enfants, c'est pas du tout leur dire « Asseyez-vous bien gentiment, taisez-vous et on va vous raconter une histoire, il était une fois. » C'est « On va travailler ensemble à votre puissance politique. Donc on va construire une manifestation d'avenir ensemble. Et on a imaginé un spectacle où les adultes circulaient de table en table et au centre, il y avait une table avec tous les enfants dans une toute petite forêt comme ça, sous trois arbres que pompeusement la municipalité appelait la forêt. Mais bon, c'était les trois arbres qui restaient, qui n'avaient pas été détruits pour construire les bâtiments. Et on s'est mis là avec les enfants. Et nous, pendant l'heure et quart de spectacle des adultes, on construisait la manifestation d'avenir. C'est-à-dire qu'on se racontait une histoire qui nous donnait des forces, qu'on avait coécrite avec certains des enfants. Et à partir de cette histoire, on se disait, ok, si on veut faire une manifestation d'avenir, c'est quoi les slogans qu'on veut inventer ? Les adultes circulaient de table en table en proposition théâtrale, mais ils passaient aussi un quart d'heure en observation de d'un bout de la construction de cette manifestation. Et à la fin, tous les enfants performaient leur manifestation d'avenir. Donc c'est de là qu'est né ce spectacle, parce que sur la question de l'avenir, on s'est heurté à plein de questions, les enfants et nous, où on était un peu trop court dans notre pensée. Typiquement, qui a du pouvoir sur l'avenir ? Plein d'enfants nous disaient Pôle emploi. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond ici en Belgique.
À Actiri.
Ouais, voilà. Et on se disait, ils n'ont pas complètement tort, mais en même temps, on ne peut quand même pas en rester là et se dire, ouais, ok, c'est Pôle emploi qui a du pouvoir sur l'avenir. Ou alors, ils peuvent dire, c'est Poutine qui a du pouvoir sur l'avenir. Ok, ils n'ont pas tort, mais on peut ne pas en rester là. Ou ils peuvent dire le nom d'un dieu, par exemple, selon leur culture et leur croyance. On se dit, ok, mais pas que quand même. Donc on est allé chercher un philosophe avec qui on travaille régulièrement, on lui a dit voilà les problèmes qu'on rencontre, on est trop court en pensée là-dessus, comment tu peux nous aider ? Et on a pris 3 jours de leçons de philo avec lui et on est retourné ensuite pour créer vraiment ce spectacle « On inventera le titre demain ».
Et alors j'ai une question par rapport aux adultes qui étaient un peu réticents au projet, est-ce qu'aujourd'hui vous avez su les intégrer ?
Alors, c'est pas qu'ils étaient réticents au projet, je crois que c'est ce que ça raconte aussi la présence d'artistes dans des territoires comme ceux-ci, c'est qu'il y a plein d'habitants qui se disent « ça n'est pas pour moi ». ça n'est pas pour moi parce que l'art, ça doit être un truc peut-être de riche, de catégorie sociale, d'une certaine culture qui est la culture officielle et que moi, je fais pas partie de ça, donc ce sera pas pour moi a priori. Et donc, nous, tout le travail, c'était de construire de la relation pour se dire, c'est pas, d'abord, c'est pas pour, c'est avec. On fait pas des spectacles pour, on les fait avec. Et ce avec, il est très large. Ça veut pas dire qu'on demande aux gens forcément d'être sur scène et de prendre la parole. Mais en tout cas, on co-construit, on co-élabore ensemble, on coopère pour se dire quel est le sens, en fait, de faire apparaître une œuvre, bon, en l'occurrence un spectacle, à cet endroit-là avec vous. Donc c'est comme ça qu'on a bossé.
Et il y a un autre spectacle qui est Cartographie de l'avenir, qui est tout public, qui, de nouveau, c'est sur une table, et qui est un peu l'autre pendant du spectacle. Il y a ce même genre de table, ce même genre de dispositif. Et là aussi, on écrit, enfin, il y a quelque chose de visible qui se construit aussi avec les adultes autour de cette table. C'est, on se met tous ensemble et on co-construit un avenir.
Oui, alors, c'est pas forcément co-construire un avenir dans un sens prospectif où on imagine comment serait l'avenir qu'on voudrait. C'est plutôt de se dire comment on se situe individuellement et collectivement avec ce concept. Et pour situer avec le concept d'avenir, bah d'abord, faut se dire quelle est la différence, par exemple, entre le futur et l'avenir, quel est notre rapport au temps, quel est notre rapport à nos rêves, à nos désirs, à notre volonté, à nos projets, est-ce qu'on transforme nos projets en capacité d'action, qu'est-ce que c'est que agir. Voilà, donc c'est se mettre au clair, collectivement, avec toutes ces nuances, et avec, nous, on apporte une espèce de squelette et puis les participants, donc les spectateurs, mais qu'ils sont participants parce que c'est des dispositifs qui ont vraiment à voir avec la question de la démocratie et qu'on n'est pas spectateur en démocratie, viennent apporter les muscles, les organes, la chair de tout ça et ça vient déplacer le squelette et c'est tant mieux.
Même si on invente le titre demain, c'est déjà une bonne route pour les utopies. Qu'est-ce que t'en penses, Oumaïma ?
Oui, je suis d'accord. Il faut bien un début.
Ouais, et on va laisser filer Rachel, du coup, à...
Oui, merci Rachel.
Alors nous, à Radio Okaï, ce sujet de l'utopie, ça nous a titillé et on a eu envie d'en savoir plus. Donc ce qu'on a fait, c'est on a pris notre studio mobile et on a été le poser à Sémaphore. Sémaphore, c'est une maison de jeunes en bordure de canal, à Anderlecht, sur une péniche. Et on a été poser la question aux jeunes qui fréquentent cette péniche, cette maison de jeunes. C'est quoi vos utopies? C'est quoi vos envies d'un monde meilleur, en tout cas d'un monde un petit peu mieux que celui dans lequel on vit maintenant? Et on vous propose d'écouter leurs réponses au gré de cette émission.
Là, l'émission, elle va parler de utopie. Est-ce que quelqu'un ici sait ce que c'est l'utopie ?
Non.
Non.
Non. Non ? Alors, l'utopie, c'est l'idée d'un monde meilleur, parfois parfait. Un monde où les problèmes qu'on connaît aujourd'hui n'existeraient pas.
Hein ? Ah, moi, je sais. J'ai un truc à dire.
Vas-y, dis-moi.
Premièrement, la pollution, il faut qu'il y ait beaucoup moins de pollution.
Ouais, par exemple, ça c'est un truc... En fait, c'est tous les trucs que tu pourrais te dire, ah ça peut changer dans notre monde pour le rendre meilleur.
Par exemple, ils ne devraient pas mettre, par exemple, des voitures à des voitures sans essence, genre une voiture...
Électrique ?
Manuelle.
Manuelle, ah ouais, un vélo quoi.
Ouais, une sorte de vélo, mais qui a un truc qui t'aide.
Oui, Mamadou.
Moins de plastique.
Ouais, par exemple.
Sinon, ça sert à rien, on va juste boire de l'eau dans une bouteille de plastique et le jeter.
Ouais.
Et c'est mieux des trucs
en métal, par exemple.
En bambou.
En métal aussi.
Oui, dis-moi.
Qui peut changer ? C'est plus d'avoir d'armes à feu et de couteaux.
Donc plus de guerre.
Oui. Ouais. Comme ça, il n'y a plus de justice. Il y a de la c'est que la police qui peut avoir des armes, mais pas les autres. Comme ça, il n'y a pas le meurtrier. Hein.
Et c'est la police qui est meurtrière.
Ça, je dis ça.
Bah, la police, on la tue alors.
Okay. La police, c'est tue déjà.
Donc, on fait pas de police. Pas de police,
si,
alors.
On lui donne un coup là, et après, on lui...
Non, prends 6 ans le tchak-tchak ou quoi. Il est même grand que toi, il a 32 ans.
Et alors, un poignard, ça coupe un gilet pare-balles.
Hein. Vous êtes violent, là. Non, mais ça, c'est bien. Plus de guerre et plus de police, c'est vrai. Oui. Plus de pollution, vous avez dit.
Et plus de police, parce que la police, des fois, elle arrête des gens sans savoir. Elle met des trucs dans les poches, après elle dit « Ah, la drogue, punie pendant 5 ans, c'est bon, là !»
Et on passe tout de suite à une autre expérience qu'on a faite hier. C'est une exposition qui a au mur du théâtre de Poche. On va écouter l'arpentage de l'exposition qu'on a fait hier.
Bonjour, nous sommes au théâtre de Poche et c'est le labo chantier des variétés autour des utopies. On est avec Cédric, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Moi je m'appelle Cédric, je travaille à Bruxelles Laïque et les labos chantiers, c'est l'équipe dont je fais partie qui s'occupe de les organiser. Et moi j'ai un peu coordonné ce dernier labo sur les utopies et on l'a appelé « Et si c'était mieux, demain ».
Et quel est le rôle que vous avez joué ?
En fait, avec Fabrice Murgia, qui est le directeur artistique, on a un peu orchestré la programmation et la fabrication des différents événements qui auront lieu aujourd'hui et demain au Théâtre de Poche.
Et comment vous avez défini le fil conducteur de ce labo chantier ?
On se rend compte que souvent dans les activités qu'on fait à Bruxelles Laïque et en particulier dans les labos chantiers, on pose des constats. Et les constats actuels, ils sont pas glorieux, ils sont pas terribles. C'est la guerre partout, le capitalisme triomphant, la pauvreté, l'écologie qui est en train de basculer. Donc, y a beaucoup de raisons de se plaindre et de pas être content de l'avenir qu'on nous prépare. Et on s'est dit, en fait... On nous met dans la tête cette perspective de l'effondrement et cette perspective de ça va aller mal, et donc tout le monde se met dans le mood ça va aller mal quoi, et ça crée une espèce de d'inquiétude collective, d'anxiété collective et d'impossibilité de penser autre chose que cet effondrement. Et alors on a pensé à cette phrase que Slavoj Žižek avait popularisée, qui était de dire « Maintenant, il est plus facile de penser l'effondrement que de penser l'émancipation ou la fin du capitalisme ». On s'est dit « Ben non, c'est hors de question qu'on se laisse aller là-dedans. La dystopie dans les médias, la dystopie dans le cinéma, la dystopie dans les romans, etc. Ok, ça nous a alertés sur des tas de trucs, mais il ne faut pas non plus que ça devienne notre façon de penser. Donc on va essayer de remettre l'utopie au goût du jour, et on voulait conclure cette saison sur une perspective positive, apprendre à re-rêver l'avenir avec joie en quelque sorte.
Merci Cédric. On va se diriger vers une exposition. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, alors l'exposition, j'en oublie le titre, Prochain arrêt Utopie. Alors, on se dit déjà une chose, l'avenir, c'est un peu impensif, mais l'avenir, c'est la jeunesse. Et il se fait qu'ici, comme dans tous les pays d'Occident, on met des enfants en prison. Ces prisons, ça s'appelle les IPPJ. Alors, ça s'appelle, c'est pas des prisons, c'est le régime protectionnel. C'est-à-dire quand des enfants commettent des délits qui sont des délits graves, parfois, ils se retrouvent enfermés dans ces institutions qui sont les IPPJ. Et les jeunes, les enfants qui sont dans ces institutions sont des gens qui ont dont la voix n'est pas entendue. Ils font partie de ceux dont la voix est le moins entendue. Et donc l'équipe jeunesse, l'équipe d'animation jeunesse de Bruxelles Laïque et des animatrices du Génépi Belgique sont allées à l'IPPJ de Wautier-Bren avec la complicité de l'équipe pédagogique de cette IPPJ pour rencontrer ces jeunes et leur proposer de réfléchir toute une série de sujets, de problématiques qui sont généralement les choses qu'on aime réfléchir avec les jeunes, les questions d'autorité, les questions de liberté, d'égalité, etc. etc. Dans une perspective utopique, justement, le dire, c'est pas parce qu'on est dans une IPPJ et qu'on vit une situation qui est vraiment craignos qu'on n'a pas le droit de se penser pour soi-même et pour les autres un avenir meilleur. Et donc il y a eu toute une réflexion avec ces jeunes sur qu'est-ce que c'est un avenir meilleur, et ils ont décidé de garder les idées les plus fortes qu'ils ont dégagées de leur conversation et de les exprimer par un moyen graphique en faisant des graffitis sur des trains virtuels. Et donc les trains, c'était l'impression de wagons et de locomotives de train sur lesquels ils ont fait des graffitis et qu'on expose maintenant ici au Théâtre de Poche.
Donc là, on va diriger voir l'exposition.
Moi, je vois un truc. Sur le premier wagon là-bas, celui qui est en queue de train, on dirait qu'il y a une critique de la guerre ou de la mort. Il y a une calache qui est en train de tirer sur IA. Sur l'IA. Une calache qui est en train de détruire l'IA. Il y a un ordinateur, un laptop qui sort un flingue et qui se suicide.
Il y a
un livre qui casse la gueule à un smartphone avec des grandes boxes. RIP iPhone, il y a des symboles de réseaux sociaux qui sont barrés. Donc j'ai l'impression que là, il y a une grosse discussion sur, je sais pas, sur le côté néfaste de...
Les réseaux sociaux. Parce que moi, je vois qu'il y a écrit les réseaux limites d'âge. Et je vois un logo YouTube et Snap barré. Ouais. Donc je sais pas ce que ça veut dire, mais c'est... Oui, j'ai l'impression que c'est un message de prévention autour des réseaux et de l'intelligence artificielle.
J'ai la même impression que toi, ouais. Et tu vois, off, tu vois, il y a le bouton off, là. Ça veut dire fermer les réseaux, peut-être. Tu vois tous ces drapeaux-là de différents pays. J'imagine que c'est des enfants qui ont des origines dans ces pays-là. On voit l'Iran. Ou alors c'est parce qu'il y a la guerre en Iran, peut-être, qu'ils sont solidaires. Et on voit One for All. C'est-à-dire un pour tous, en gros. Donc c'est un message de solidarité. Utopia. La roue, elle tourne. Liberté. Ouais. Et ça, c'est.
Les oiseaux qui symbolisent peut-être la liberté aussi.
Carrément. Et la révolte, parce que tu vois, ça, c'est le symbole de. Comment il s'appelle ? Lutfi.
Oui.
Tu vois ? Maintenant, dans tous les pays du monde, quand il y a des révoltes, il y a toujours des gens qui ont le drapeau avec le symbole de Lutfi, qui est un symbole de révolte.
Il y a aussi un lion, donc ça peut. Sur la fenêtre, donc ça peut. Moi, je le vois comme ça, comme une forme de liberté, un caractère qui s'impose, je sais pas.
Ce qui marque, c'est quand même la qualité graphique. Hein. Franchement, soit c'était des graffeurs, les gosses.
C'est super bien fait.
Il y a aussi ce truc école dans une couronne. Il y en a un qui a écrit school. Je sais pas s'il le considère en anglais ou en flamand. Et là, école dans une couronne, comme si l'école était quelque chose qui devait amener, je sais pas, la gloire. Ou...
Ça veut dire, parce qu'il y a des écritures en arabe, donc tout le monde ne peut pas comprendre. Mais toi, tu sais...
Je sais lire celui-ci, donc il y a écrit Aymen, donc c'est peut-être le prénom de quelqu'un. Ici, Palestine, donc Palestine. Palestine et vive Gaza.
Alors là, on a un wagon où il y a un drapeau marocain, un drapeau congolais, un drapeau palestinien, Congo. RDC, quoi, République démocratique du Congo. C'est là qu'il a écrit Palestine, vive Gaza sur le même.
Et donc on retrouve aussi des messages comme stop au génocide au Congo, non contre l'augmentation des Minerva, donc des messages forts.
À côté, il y a légalisation du cannabis coffee shop sur l'autre et fuck Israël. Égalité des c'est quoi ? Des salaires. Tu vois, franchement, c'est des gens progressistes.
Ils sont hyper informés sur les sujets d'actualité. Ouais. Hein. L'humanité doit prendre place. Ouais. Donc là, on a un wagon où il est coloré en vert. Comparé aux autres, il n'y a pas trop de slogans ni trop de dessins. On y retrouve peut-être liberté, si j'arrive à déchiffrer ce qu'il y a écrit. Mais ouais, sinon...
du vert sur du vert, donc c'est un peu difficile.
Mais c'est, enfin, par rapport aux autres wagons, celui-ci est couvert de vert. On n'y retrouve pas autant de slogans, ni de dessins, ni de...
C'est le wagon écologiste, en fait.
Donc là, on a un wagon aussi où on retrouve encore des applications de réseaux sociaux. Et alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ? Internet égale à cyberharcèlement. Donc on retrouve à peu près le même message que dans le premier wagon qu'on a vu. Donc peut-être une prévention contre les réseaux sociaux et les dangers, comme quoi ça peut conduire à du cyberharcèlement.
On était avec toi, Oumaïma, à la déambulation le long de cette expo. Et là, aujourd'hui, il y a Alexis qui est présent. Alexis qui participait aux ateliers en IPPJ. Je te laisse la parole, Oumaïma.
Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter ?
Bonjour, je m'appelle Alexis Pharmakidis. Je suis animateur jeunesse à Bruxelles Lake. Et je suis dans le même pôle que Cédric et d'autres de mes collègues. Mais nous, on a vraiment le portefeuille jeunesse. Donc on a pu aller en IPPJ pendant plusieurs semaines à la rencontre de ces jeunes dans des ateliers qui ont duré 2 heures pour aller parler utopie.
Et alors, pourquoi vous avez choisi de travailler sur cette thématique ?
Du coup, comme on organise chaque mois des labos chantiers, Bruxelles Lake organise chaque mois des labos chantiers, on essaie d'intégrer un angle jeunesse en fait, dans chacun de ces labos. Et ici, on avait l'opportunité de venir justement à la rencontre de ces jeunes-là, de ce public-là. Et on s'est posé la question de comment faire participer un petit peu un public qui est enfermé, donc jeune et enfermé, à une prise de parole dans ce genre d'événement. Donc on a réfléchi à plusieurs formes et on s'est dit que forcément, un des moyens les plus simples et les plus pratiques à mettre en place, c'était de pouvoir leur faire écrire quelque chose et pouvoir l'afficher. Donc c'est de là qu'est partie un petit peu l'idée. Et les wagons, pourquoi les wagons ? Parce qu'on s'est dit que l'inspiration derrière, c'était que à Bruxelles et dans d'autres pays d'ailleurs, il y a des trains qui sont complètement tagués de A à Z, parfois pour des signatures, mais aussi parfois pour faire passer des messages et des messages politiques. Et on trouvait que c'était un support qui pouvait être assez créatif de proposer ça aux jeunes qui ont déjà forcément vu à Bruxelles quelque part des trains de la SNCB qui auraient pu être tagués. Et donc proposer aussi de leur faire passer des messages via ce mode-là.
Comment se sont passées les rencontres avec le groupe ?
Très bien, donc on est arrivé dans la section fermée de l'IPPJ. On a eu d'abord des réunions avec l'équipe de la direction, des éducateurs et de tout ce qui encadre un petit peu l'IPPJ. Et après avoir présenté le projet, on a eu le feu vert, on a eu un éducateur en particulier qui était prêt à prendre le projet sous sa responsabilité, donc on a beaucoup travaillé avec lui en particulier. Et on a pu donc débarquer dans cette section où on arrive dans une sorte de pièce commune. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'IPPJ, on a déjà entendu que c'était pas tout à fait une prison, mais surtout la section fermée, on est vraiment dans un milieu carcéral. Chaque porte qu'on doit passer pour rentrer dans cette section doit être ouverte depuis une centrale, depuis quelqu'un dans une centrale. Donc chaque éducateur qui nous fait passer une porte a un toki et il doit demander à quelqu'un dans la centrale d'appuyer sur un bouton pour ouvrir la porte. Donc on arrive dans cet espace ouvert avec ces jeunes qui sont là répartis, qui nous attendent au final. Et donc c'est une dizaine de jeunes pour donner une idée. Et il y a des éducateurs qui sont toujours quelque part autour. Si pas directement avec nous dans l'activité. Et donc on arrive dans cette pièce et on a donc 2 heures pour discuter avec les jeunes, pour mettre en place notre atelier. Mais le temps est long là-bas, à l'IPPJ dans la section fermée, on nous l'a dit, donc on aurait pu prendre un peu plus de temps, on aurait pu faire un peu plus court, c'était assez flexible en termes d'horaire, mais on a décidé de garder un atelier de 2 heures pour garder l'attention, pour garder quelque chose qui soit assez dynamique aussi.
Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au sein du groupe ?
Au sein du groupe, non. Alors, je ne sais pas si c'est de la chance ou autre chose, mais on est tombé sur un très chouette groupe qui était assez participatif, assez preneur de ce genre d'expérience. Donc, on n'a pas eu de difficultés, en tout cas, nous, avec eux, de rentrer dans la discussion, de construire, en fait, cette réflexion avec eux. Là où, parfois, ça pouvait être un petit peu plus tendu, c'était un petit peu entre eux à certains moments où on les voyait se lancer des petites piques, où on les voyait se provoquer, et ça pouvait un petit peu monter dans les tours, même si ça n'a jamais dépassé, on va dire, un autre niveau. Et l'autre petit point de friction qu'on aurait pu voir, c'est aussi avec le rapport avec les éducateurs. On peut voir que, forcément, nous, on arrive qu'une fois par semaine pendant 2 heures, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé avant, après, on ne sait pas trop quelle est la relation qu'ils ont entre eux et avec les éducateurs. Et même si on a été très bien accueillis, même si tout s'est très bien passé de bout en bout, on peut sentir que voilà, il peut y avoir des petites tensions à certains moments et qu'il y a des rapports de force. Ça, c'est clair, c'est très bien dit dès le départ. On nous a fait un tour de la section fermée. Il y a une cellule d'isolement. Les portes sont fermées de telle heure à telle heure. Et encore une fois, chaque porte, même la plus entre guillemets insignifiante dans l'IPPJ, est fermée et doit demander une autorisation pour être ouverte. Donc voilà, niveau des difficultés, c'est un peu ça qu'on a vécu.
Merci Alexis. Bah, une petite sélection musicale de Rokia, et puis tout de suite, on entendra Rokia.
All's my life I has to fight, nigga. All's my life I hard times like, yeah. Bad trips like, yeah. Nazareth, I'm fucked up, homie, you fucked up. But if God got us, then we gon' be alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the bass down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. With pretty pussy and Benjamin is the highlight. I tell my mama I love her, but this what I like. Lord knows, 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me, reaping everything I sow. So my karma come in heaven, no preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster in silence for the record. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone crazy. Trying to side my face this all day. Won't you please believe when I say, when you know we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po. Wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door. My knees getting weak and my gun might blow. But we gon' be alright, alright.
Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? Alright, nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright.
What you want? You a house, you a car, 40 acres and a mule, a piano, a guitar, anything. See, my name is Lucy, I'm your dog. Motherfucker, you can live at the mall. I can see the evil, I can tell it. I know it's illegal, I don't think about it. I deposit every other zero, thinking of my partner. Put the candy, painting on a Rico, digging in my pocket. And a profit big enough to feed you every day. My logic, get another dollar just to keep you in the presence of your Chico. Ah! I don't talk about it, be about it. Every day I sequel. If I got it, then you know you got it. Heaven, I can reach you. Pet dog, pet dog, pet dog, my dog, that's all. Big back and chat, I trap the back for y'all. I rap, I black on tracks, so rest assured. My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before. Nigga, when our pride was low, looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate po-po, wanna kill us dead in the street for sure. Nigga, I'm at the preacher's door, my knees getting weak and my gun might blow, but we gon' be alright.
Right. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright.
Nights in my prayers. I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
Et voilà, c'était Kendrick Lamar avec Alright.
Ouais. Alright.
Alright. Ouais, une des annonces de Kendrick Lamar, trop bien. Bonjour Rokia.
Bonjour, bonjour.
Alors, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaisseraient pas?
Alors, je m'appelle Rokia Bamba et je suis créatrice sonore. Qu'est-ce que je fais encore? Je suis animatrice de podcast. J'ai une émission aussi sur Breuze. Je fais de la musique pour le théâtre aussi. Je suis actrice aussi, je suis maman aussi.
Et, qui est un rôle à part entière.
Voilà, et je suis aussi DJ. Voilà, j'ai plusieurs casquettes et je continue avec...
À faire la collection de casquettes.
À faire la collection de casquettes.
Tu es là pour un DJ set ce soir, en ouais. Clôture de ce labo chantier Utopie. Mm-hmm. J'ai envie de te demander, c'est quoi l'utopie pour toi?
Oula.
Ah bah oui.
Ah, ça, je ne m'y attendais pas. Après tout ce qui vient d'être dit. Alors, l'utopie, pour moi, c'est de l'espoir, déjà. C'est un autre paradigme, c'est regarder le kaléidoscope de ce qui se passe et surtout agir, en fait. Et donc, ça permet aussi de surpasser l'indéfendable, tous les travers par lesquels on est traversé, c'est s'imaginer, c'est ouvrir la porte des possibles, en fait, que ce soit en musique ou dans les faits qui nous préoccupent, en fait, dans la vie et dans le quotidien.
Et j'allais dire, justement, en musique, comment toi, la musique fait intégralement partie de ta vie, évidemment. Ouais. Comment toi, tu vois ça? Quelle place a la musique dans ces utopies?
Ah, elle a une place importante. J'ose l'espérer, en tout cas. C'est la musique rassemble, déjà. La musique fait remonter des émotions, des souvenirs. Elle fait partie, chaque musique. Je dirais que si on pose la question au nombre, aux personnes qui sont assemblées et qu'on leur pose la question, quelle est la musique qui vous parle le plus, tout de suite, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Et ça fait partie de la vie, en fait, tout simplement, quoi.
Et toi, quelles sont les musiques qui te parlent le plus?
Ah, tout.
Mais s'il fallait en choisir trois, ton top 3.
Oh là, le top 3. Le top 3, il y a déjà Kendrick Lamar.
Qu'on vient d'écouter.
Que j'aime beaucoup.
Et pourquoi?
Pourquoi? Parce que il a amené un nouveau souffle dans le hip-hop. En tout cas, moi, j'y suis beaucoup sensible. C'est quelqu'un qui me touche au niveau du cœur et au niveau du ventre. Donc, en tant que DJ, c'est assez important. Déjà, il y a de bonnes basses. La musique est vraiment, vraiment très, 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 très chouette, très vibrante. Et c'est surtout les paroles, en fait. Il parle beaucoup de ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Il a pu faire le Super Bowl, pas celui de cette année, mais celui de l'année précédente, en plein trumpisme. et donc la scène qu'il a mis en place était vraiment très résistante. Et c'est ce que j'aime chez lui. C'est vraiment quelqu'un qui véhicule vraiment, on a l'impression, une image très, très, très... dans la résilience, surtout dans la résistance. Donc c'est antinomique, mais en même temps, et ambivalent, mais en même temps, c'est ce qu'on est. Nous, les êtres humains, on est dans l'ambivalence perpétuelle. C'est une personne qui me parle beaucoup, quoi. Plus que Beyoncé, en tout cas.
Donc ça, c'était numéro 1.
Alors 2, c'est Théodora, que j'aime beaucoup, qui apporte vraiment un souffle nouveau. Tyler, The Creator aussi, que j'aime beaucoup au niveau des sons. Varnish La Piscine aussi.
Ça, c'était la marche 3, ça.
Voilà. Et je vais m'arrêter là, parce que sinon, ça continue.
J'allais te demander, justement, en dernière question, quelle est ton utopie à toi? Pour parler du futur.
Mon utopie à moi, c'est... Pour moi, l'utopie, elle n'est pas... Il y a le mot espoir, mais il y a encore combat, il y a encore lutte. Et ce n'est pas acquis, en fait. On a l'impression que on est sans cesse en train de revenir en arrière. Et que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et donc, du coup, moi, ce que j'aimerais faire, c'est ouvrir des portes justement pour que, et ouvrir d'autres paradigmes, continuer mes combats pour que la parole puisse émerger le plus possible, pour qu'on puisse être entendu, nous les minorités, ce qu'on dit être minoritaire, mais on ne l'est pas. Il faudrait trouver une autre définition et inventer un autre mot. Et je pense à eux, je pense à mes enfants, je pense aux enfants qui sont dans la vingtaine, qui vont arriver, qui vont passer la vingtaine, la trentaine, et qui vont se retrouver avec que des problèmes dans ce pays. Donc du coup, il y a un moment où je me dis, je suis contente d'avoir la triple nationalité et d'être ivoirienne et malienne, parce que si ça sent mauvais, on part. Donc il y a cette alternative-là. Mais en même temps, voilà, il y a tout à faire et il y a beaucoup de combats à mener et encore à faire. Et ouais, pour moi, l'utopie, c'est pas voilà, il est pas comment dire, il est pas présent, il est pas encore là. C'est pas le rêve, c'est pas enfin tout le climat actuel fait que on a du mal.
Donc il faut encore agir.
Il faut encore agir. Ça, il n'y a pas de secret.
Bah, agissons. Voilà. Mais d'abord, écoutons. On a encore un petit son que tu nous as choisi.
Ouais.
Et c'est California Soul. Et voilà. Et bien, merci beaucoup, Rokia. Et bon set tout à l'heure.
Merci.
En gros, une utopie, c'est l'espoir de construire une société. Vous savez ce que c'est, une société ?
Oui.
Ouais. Une société idéale, où tout serait globalement parfait. Est-ce que vous pensez qu'on vit dans une société idéale ?
Non.
Pourquoi ?
On peut parler de l'école. L'école, déjà, en fait, 8h30 pour des enfants, c'est trop tôt.
Donc déjà, la société idéale, elle commence par l'école plus tard.
Ça commence max à 9h.
Pourquoi est-ce que c'est trop tôt?
Parce que quand on se réveille, déjà, on rentre en classe fatigué. On n'arrive pas à se concentrer à cause de la fatigue. On doit se réveiller, pour ceux qui n'habitent pas à côté, même presque tout le monde, à 7h du matin pour déjeuner, pour nous habiller, pour faire nos affaires de cours. Ensuite, il faut y aller à l'école, tout ça, jusqu'à 8h30.
Ouais, une galère.
Du coup, on va être, tout ce qu'on va faire, on va le faire fatigué.
Et toi, tu disais, Ismaël, il faut pas commencer trop tard.
Non, pas trop tard.
Pourquoi?
Parce que sinon, ça sera pas assez... On pourra pas bien organiser ce qu'on va faire, quoi.
Oui, voilà, pas dépasser 9h, quoi.
Vraiment, si on dépasse 9h, c'est trop.
Moi, c'est plus une galère, parce que moi, je vais à la garderie.
Ah ouais, il y a aussi la garderie du
matin. Ouais, la garderie. Moi, j'y vais jamais, moi. Moi, c'est toujours ma mère qu'elle travaille pas.
Et donc toi, tu dis c'est une galère, c'est ça?
Ah oui.
Et pourquoi c'est une galère? Explique.
Je dois me lever à 5h tous les jours, à part le samedi et dimanche. Je dois faire mon déjeuner 20 minutes max. Je dois me brosser les dents, je dois me laver, je dois me préparer. Voilà.
Pour être à quelle heure à l'école alors, toi?
Tu vas à quelle heure à l'école?
À 6h.
Waouh, c'est
donc,
tôt.
Donc du coup,
hein,
c'est très tôt. Et donc, une société idéale, ça commence par une école qui permet que vous viviez un petit peu plus calmement le matin, c'est ça?
Oui, ouais. Et vu que, par exemple, là, on commence à 8h30, on finit à 15h30. Vu qu'on commence à 9h, on finit à 16h.
C'est bien, parce que...
Comme ça, le temps, on ne le perd pas et juste, on peut bien se reposer. Comme ça, on rentre... en classe avec en forme, quoi.
Ouais, parce que moi, quand je rentre en classe, je suis fatiguée de fou. Hein. Ok, ça m'empêche pas de bien réfléchir, mais.
Moi, la garderie, je suis fatiguée. Vous en classe, moi en garderie.
En fait, il y a des. Le problème, c'est à la cour, par exemple, on est à 6 heures en classe, on travaille 6 heures pendant 6 heures. Pour un enfant, moi, je trouve 6 heures, c'est trop. C'est beaucoup trop. Pour notre âge, en plus 6 heures de, on fait ça jusque 18 ans, à part, et même des fois, pour ceux qui restent à l'étude, 16h30, du coup c'est beaucoup.
J'ai un autre truc à dire, on va plus à l'école qu'à la maison.
Ouais.
Oui, donc mais ça rejoint ce que tu disais aussi, c'est-à-dire oui. Que c'est... Quelle est la qualité du temps qu'on passe avec sa famille, c'est les gens qu'on aime?
Ouais, c'est trop peu. On est petits et on commence l'école à 8h30, on finit à 15h30. Et normalement, notre journée, encore si elle serait finie là, c'est bon, encore ça va déjà, ça va, c'est un peu mieux. Mais on a quand même des devoirs, ils nous rajoutent des devoirs. Après, on doit passer à l'école de devoirs jusqu'à 18h. Mais cette école de devoirs, elle est bien parce qu'on fait des activités. Mais la plupart des écoles de devoirs, ils font que travailler ou quoi, c'est trop dur ça.
Et s'il y avait une chose dans la société idéale que vous voudriez très très fort, ce serait quoi? Une seule chose.
On a dit en tout premier... Commencer l'école à partir de 9h, un truc comme ça. Et finir du coup à 16h.
Et toi?
Que les gens arrêtent de gaspiller les choses qu'ils mangent et tout, d'arrêter de jeter les choses par terre. Parce qu'à cause de ça, il y a le... Je crois que c'est à cause de ça qu'il y a le réchauffement climatique, non?
Il y a la pollution qui fait que, ouais. Qu'il y a un réchauffement climatique, oui, aussi, oui.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose qui t'inquiète?
Ouais, parce qu'on pourrait... La Belgique pourrait ne plus se détruire, quoi.
Et aussi, on trouve de plus en plus de chats, d'animaux morts par terre.
Oui.
Moi, j'en trouve beaucoup. Et aussi, des chats, des trucs qui habitent dehors sans foyer, sans rien.
D'accord. Donc, si vous vouliez quelque chose de très fort, ce serait... Que le monde soit un peu plus juste, donc on commence pas l'école trop tôt. On ait du temps avec sa famille le matin. et ouais, pour se réveiller, pour avoir tous ces neurones en place, qu'il n'y ait pas trop de réchauffement climatique et que tout le monde fasse attention, et qu'on fasse attention les uns aux autres, en fait, oui, y compris voilà. les animaux.
Oui.
C'est ça ?
Oui.
Si j'ai bien compris ? Ou il y a autre chose encore ?
Parce que, oui, parce que, en fait,
et les
pour
enfants.
Les animaux, oui, voilà, pour les animaux, ils disent, ah oui, eux, ils servent à rien, et du coup, ils les laissent à l'abandon et ils les laissent dehors, quoi. Sans rien, sans nourriture.
Donc, si j'entends bien, c'est faire attention quand même les uns aux autres.
Oui.
Oumana, hier, tu as fait une des expériences proposées ici à ce Labo Chantier, qui est une expérience de réalité virtuelle, qui s'appelle Le Palais. Et Gilles, qui est aussi avec nous, qui est le réalisateur de cette expérience en réalité virtuelle. Je vais vous laisser les commandes, parce que Oumana, tu as fait l'expérience en réalité virtuelle. Est-ce que tu peux brièvement en parler? Et puis Gilles complétera en quoi ça consiste, cette réalité virtuelle.
Oui, alors hier, j'ai fait l'expérience. Donc, on est plongé dans un monde où on a une personne qui présente et on aide à son élaboration de son utopie. Donc, ça se présente sous forme de pièces. Donc, chaque fois, on ouvre un nouvel appartement et on découvre la richesse, plein de thématiques autour de ça. Donc, bonjour Gilles.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Alors oui, moi je m'appelle Gilles Boustany, je suis réalisateur depuis une trentaine d'années. Je viens du cinéma classique, donc je suis aussi enseignant à l'université à Sorbonne, à Paris, en cinéma, en mise en scène. Donc mon parcours c'est plutôt le cinéma documentaire et la fiction classique. Et voilà, depuis une quinzaine d'années, je travaille avec et sur... pas que, mais en partie, sur un site très particulier qui s'appelle le Familistère, qui est ensemble.
ce palais dont voilà. Koumaïma a pu visiter en réalité virtuelle, c'est ça?
Exactement. Le palais, c'est c'est ce qui reste aujourd'hui de l'expérience utopique d'une vision d'un homme au 19e siècle qui s'appelait Jean-Baptiste André Godin, qui était un industriel au départ. Au départ, c'était un ouvrier qui est devenu industriel, qui a fait fortune.
Et on est dans quelle partie ? On est en France. Hein.
On est dans le nord de la France, dans une petite ville qui s'appelle Guise. Voilà. Et aussi en Belgique, et aussi à Bruxelles. Parce que tout de suite, il crée un deuxième familistère en petit, à Bruxelles. Il existe toujours d'ailleurs, le familistère. Qui est des usines à Laeken. Donc voilà. Donc cette usine, au départ, qui devient de plus en plus importante, de plus en plus grande... s'appuie sur... elle lui permet de développer un peu son idée. Lui, c'est un grand... il rêve de Charles Fourier, des utopistes du 19e siècle. Il est pétri de cet imaginaire-là. Il crée l'idée de créer un phalanstère. Donc ça, c'était cette vision de ville utopique qu'imaginait Charles Fourier. Bah, lui, il va la mettre en place, vraiment. Et il va consacrer toute sa fortune pour le faire. Et il s'agit, en fait, à l'époque de Germinal, hein, où les enfants à 6 ans, ils sont à l'usine ou dans les mines. Géographiquement, c'est de ça qu'il s'agit. On est bien dans cette région-là. Lui, il va créer une ville sur le format du palais de Versailles, hein, avec ses trois ailes en quinconce. Au milieu, il met un théâtre flanqué de chaque côté d'écoles. Et pour pouvoir travailler à l'usine, en fait, il y a deux règles, seulement. Il faut acheter une action du familistère qui doit coûter 10 centimes et s'engager à apprendre à lire et à écrire, puisque à l'époque c'était vraiment l'ignorance qui était le plus grand fléau de des classes prolétariennes. Et 10 ans plus tard, en fait, il va leur donner à gérer la ville, et 10 ans plus tard, il va leur donner l'usine avec. Donc à partir de ce moment-là, il a créé une coopérative, il est l'un des premiers à avoir créé ce qu'on appelle une coopérative intégrale, c'est-à-dire pas juste une coopérative d'alimentation ou de coopération comme on peut avoir en agriculture, par exemple, ou dans des épiceries solidaires, des choses comme ça. Là, il s'agit vraiment que intégralement toute la société soit basée sur le système de la coopération et de la solidarité. Tout son univers est basé sur cette idée, c'est pas de transformer les pauvres en riches, c'est que les pauvres aient tous les équivalents de la richesse que les riches ont individuellement, mais qu'il les ait collectivement. et l'hygiène, la propreté, la culture, l'éducation. Donc le projet de VR, je tourne un peu autour du pot, mais le projet du palais, de l'expérience en VR, c'est d'accompagner Gaudin, de faire un rétropédalage, de se retrouver à l'époque de Gaudin et de l'accompagner dans la création de son utopie. Et pour ça, de se poser avec lui les bonnes questions de qu'est-ce que sont les équivalents de la richesse à posséder collectivement qu'il faudrait donner à tout le monde. Et c'est encore vrai aujourd'hui, on peut se poser ces questions pour nous aujourd'hui. Quels sont les équivalents de la richesse qu'on peut posséder collectivement et qui nous permettent de bien vivre ensemble?
Et c'est quoi par exemple? C'est avoir du chauffage?
L'hygiène de vie, d'avoir un logement facile à nettoyer, propre, avec de l'eau courante, avec qui soit traversant, donc l'air, l'eau, la lumière, ce sont les trois richesses finalement que les pauvres n'ont pas dans leur logement et que les riches ont. Donc ils s'attachent à apporter l'eau, l'air, la lumière et l'espace évidemment. Il faut que les appartements soient suffisamment grands, ils sont tout à fait modulables en fonction de la taille des familles et ils s'agrandissent avec eux. C'est très très bien foutu, c'est étonnant. En 2000, il y a les normes européennes qui sont arrivées au ministère. On s'est rendu compte que, en fait, la mise aux normes était pratiquement nulle.
Omeima, tu avais d'autres questions sur...
Alors oui, et de quoi est parti le projet?
Alors le projet, en fait, bon,
de VR. Ça,
le projet en VR, pas le projet de ministère parce que j'étais pas né, mais le projet VR est parti en fait d'une longue collaboration avec le ministère. Ça fait très longtemps qu'il y a beaucoup de films, plusieurs films que j'ai fait avant. Avec le Famistère, ou sur le Famistère, mais à aucun moment j'avais pu proposer un projet qui soit un peu global sur la pensée de Gaudin, sur cette idée-là. J'avais très envie de le faire, donc c'était un projet plutôt personnel. Et puis il est né d'une constatation pendant les Gilets jaunes. J'ai travaillé sur un autre projet avec des jeunes étudiants, c'était le hasard, hein, ça se passait pendant l'épisode des Gilets jaunes. On leur avait demandé, ils avaient enfermé dans une ancienne école, et on leur avait demandé d'imaginer le monde de demain, tel qu'ils voulaient le vivre. Et je me suis rendu compte, je leur avais mis des bouquins de Famistère, j'avais présenté les utopies, les expériences utopies, il y en a eu beaucoup, hein, ces expériences utopies du 19e siècle, pour les inspirer, pour leur donner des pistes de réflexion. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte que ça ne les intéressait pas du tout. Et en fait, cette constatation, j'ai pu la vérifier avec tous les jeunes et les moins jeunes que j'ai rencontrés qui vont participer ou qui participent encore à des ZAD ou à des expérimentations sociales, quelles qu'elles soient, dans divers lieux. Et avec toujours cette réponse que quand on fait ces sessions, avec l'idée de faire utopie, on est là pour faire utopie, on ne va pas aller chercher ce qui existe, ce qui a été fait avant. On veut vraiment partir de zéro. C'est une page blanche.
Omeima, encore une question, on arrive tout doucement à la fin de l'émission.
Alors oui, j'ai une toute dernière question. Quels sont les objectifs de proposer alors cette expérience virtuelle?
Alors je vais essayer de répondre sans divulgacher l'expérience, parce que c'est quand même dommage, ce serait quand même dommage de le faire. Il y a quand même à travers tout ça l'idée que, en se posant les questions que Gaudin s'est posées, donc en se posant avec lui les questions qu'il s'est posées pour résoudre pour trouver des solutions, les solutions qui seraient forcément très différentes que nous pourrions proposer aujourd'hui posent la question d'identifier en fait finalement que la question de trouver collectivement des réponses à des recherches d'équivalence de richesse, ça marche toujours aujourd'hui. Donc on pourrait très bien appliquer ce raisonnement à autre chose, autrement, pour faire utopie autrement. Donc l'idée, c'est pour ça que l'introduction, si tu as remarqué, en fait on parle beaucoup d'aujourd'hui, on voit des images de soulèvement, mais aussi de réalité du travail des enfants, de la Softcon en Chine, comment les ouvriers se suicident en jetant par les fenêtres dans les années 2010. Les soulèvements, le printemps arabe, voilà, toutes ces aspirations des peuples à plus. Alors on a dit plus de démocratie, mais je ne suis pas sûr que ça soit vraiment ça. Mais en tout cas, l'idée de faire collectif, de faire commun, et que ça, ça relève de l'utopie, l'idée de faire commun, et que ces aspirations-là, elles renvoient à des absences des absences d'équivalence de richesse qui sont toujours les mêmes, à mon sens.
Et moi, j'ai une question. Alors, est-ce qu'on parle de faire commun? Et tu es un homme de cinéma. Le cinéma, on se met dans une salle tous ensemble pour regarder quelque chose. Et là, c'est une expérience où on est très seul.
Alors, oui. Alors, c'est quoi la question?
Est-ce que c'est commencer à sa propre échelle pour se mettre ensemble dans une salle? Parce qu'on est vraiment seul dans cette expérience, puisqu'on a, très concrètement, on a un casque de réalité virtuelle, nos deux petites mains qu'on peut voir qui actionnent des manettes, mais on reste seul face à cette expérience qui, si je t'entends bien, doit être une expérience de prise en compte collective.
Alors, je pense que la prise en compte, elle est individuelle, et qu'ensuite, le faire c'est, qui suit, il est collectif. Enfin, j'ose espérer. Maintenant, la VR, je trouvais que la VR était très pertinente par rapport à, en termes d'expérience, par rapport au cinéma. C'est que le cinéma, en fait, ça repose, en tout cas la fiction, repose sur une forme de disparition d'une partie de notre état de conscience, en fait. On est beaucoup dans la projection, on s'identifie à un personnage, on rentre dans un univers, et il y a une forme de délégation, finalement, de ce qu'on pense et de ce qu'on vit pendant la durée du film. Ça, c'est le principe que Coleridge disait, c'est la suspension consentie de l'incrédulité, donc une part de son propre libre arbitre qu'on met de côté pour rentrer. Or, dans la VR, c'est pas du tout le cas. Dans la VR, on est conscient de son corps, on est conscient de sa présence physique dans l'espace, partagée avec ce qui se passe autour de soi. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant justement pour porter cette prise de conscience individuelle qui, je l'espère, en tout cas, peut-être pas, certainement pas sur tout le monde, mais peut-être sur 1 sur 10 000, ce serait toujours ça, pourrait permettre un engagement, enfin donner envie de s'engager par ailleurs sur nos utopies à nous d'aujourd'hui.
Donc, d'où l'intérêt d'inscrire cette expérience VR dans une expérience plus globale qu'est le Labo Chantier.
Tout à fait.
Utopie. Il est
parfaitement à sa place.
Et de faire débat autour de cette utopie. Et à titre tout à fait personnel, une utopie personnelle?
Mon utopie personnelle, ouais. Oh là, il y en a tellement. Déjà, je regarde, j'ai mon fils là qui est derrière vous, je regarde mon fils et j'aimerais bien pouvoir qu'on arrive à décharger les jeunes de la culpabilité du monde qu'on nous leur laissons. Ce serait déjà une belle utopie. Je pense que si déjà ils se sentaient un peu plus bien dans le monde d'aujourd'hui pour appréhender le monde de demain, ce serait chouette. Au lieu de porter notre fardeau à nous.
Ah, merci, on peut clôturer là-dessus, Oumeima. Merci à toi, Oumeima, et merci à Romuald. Et là, je pense que tout le monde est rentré pour l'expérience, pour on inventera le titre demain, parce que le festival Labo Chantier continue, et que c'est jusqu'aux petites heures avec Rokia. Donc merci à tous ceux qui sont venus à ce micro, et puis toute l'émission sera, on pourra réécouter toute cette émission le 27 juin entre 18 et 21h sur Radio Campus, radiocampus.be et 92.1, et puis partout, tout le temps, sur Radio Okai, Radio Okai, Radio c'est comme Radio, OH c'est OH, Okai c'est OHKAAI.be, tout attaché, radio okai.be. Merci à tous.